Bienvenue sur les scènes de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce 28e épisode des Seigneurs de la F1, donc le podcast dédié aux passionnés de la F1, mais aussi ceux qui veulent découvrir tout ce qui est Formule 1, sport auto, et j'en passe. Bonsoir messieurs, on va débriefer de Suzuka aujourd'hui, donc le Grand Prix du Japon qui a eu lieu ce week-end. Est-ce que déjà vous allez bien en ce lundi, messieurs ?
Eh ben ça va. Pas eu la victoire escomptée de Ferrari, mais on n'était pas loin.
Hein. Bon, pas loin à une petite vingtaine de secondes, quoi.
Ah, une phalange. Une monoplace de game.
Bon, j'espère qu'en voyant ton top 3 ou ton flop 3, il y aura peut-être Ferrari dedans. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et toi, Yoyo, ça va ?
Ouais, ça va, un plaisir de retrouver. Lundi, c'est Remax de la F1, donc toujours un plaisir de retrouver le lundi.
Et oui, surtout que cette saison, 24 Grands Prix, il y aura de quoi faire.
Ouais, complètement. Ça se trouve, d'ici 5 ans, on se dira, oh là, 24 Grands Prix, c'était tellement la belle époque, quoi. Aujourd'hui, c'est 35. Voilà.
Bon, 52, hein. Un par semaine.
Tu faire tous les États-Unis, ensuite tu pars complètement de l'autre côté de la planète.
Enfin, c'est 104, c'est que 52, un par semaine, plus la course sprint qui sera comme un MotoGP avec deux courses par...
Et nous nous retrouvons au 7e Grand Prix aux Émirats Arabes Unis sur le 7e circuit construit. Allez.
ce serait pas impossible, franchement. Avec un peu d'argent et de volonté.
Il y a le projet du nouveau Grand Prix en plus. Donc, c'est
vrai. En tout cas, merci à tous de nous suivre. On cesse de progresser grâce à vous. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit follow, un pouce bleu, ça fait toujours du bien pour le référencement des vidéos, notamment sur YouTube. Et si vous êtes sur plateforme de streaming, n'hésitez pas aussi à liker le podcast. Aujourd'hui, du coup, au programme. Un programme un peu plus léger que d'habitude. On va parler du week-end, de ce qui s'est passé en Formule 1. En sachant qu'il n'y avait pas de Formule 2, il n'y avait pas de Formule 3, il n'y avait pas de Formule 1 Academy. C'était un week-end 100% Formule 1 à Suzuka. On rappelle que Suzuka, en plus, ils ont déplacé la date du Grand Prix. Parce que initialement, dans le calendrier de la F1, le Grand Prix de Suzuka est plutôt vers la fin de saison. Et là, pour éviter du coup la saison des typhons ou autre, ce qui est un peu réclamé quand même depuis très longtemps... Ils ont mis ça vers le début de la saison, ce qui nous a permis d'avoir un très beau Grand Prix avec bon soleil, bonne température pour tout le monde, record de nombre de visiteurs sur le circuit, donc ça fait plaisir. Ensuite, on va parler en focus qui nous a été amené par Yoyo. Sainz est-il meilleur que Leclerc ? C'est la question qu'on se pose. C'est la question que aussi vous posez apparemment parce que vous dites, mais pourquoi Sainz va partir de Ferrari et que Hamilton va le remplacer chez Ferrari ? Pourquoi il laisse partir Sainz ? Où il va aller ? Quel est son projet ? Pourquoi il est tellement fort en début de saison ? On essaiera de répondre à tout ça dans l'épisode. Ensuite, on va faire route vers la Chine et la suite du programme de ce qui va se passer en Formule 1 sur le reste du mois et sur les prochains Grands Prix. Et on aura notamment les pronos des seniors, mais ça, vous avez l'habitude. Avant de passer au top et au flop du week-end, on va repasser par les pronos qu'on avait fait pour le Grand Prix de Suzuka, donc les pronos des seniors. Donc si vous ne connaissez pas, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avant chaque Grand Prix, on fait un petit prono sur le poleman, la P1, enfin la position 1 à l'arrivée, la position 2, la position 3, et en bonus... Est-ce que va y avoir un abandon ? Si oui, lequel ? Donc ça laisse place toujours à des petites spéculations. Pole position. J'étais le seul à avoir mis Verstappen. Et ça, pour une fois que je gagne sur la pole, je suis plutôt content. Par contre, je me suis foiré sur le reste. P1, c'est pour Yuyo. C'est Yuyo qui remporte la P1 avec Verstappen. Alex, désolé, mais Leclerc n'a pas terminé premier. Et j'avais mis Sainz, donc du coup, tu vois, c'était pas loin non plus. En P2, Yuyo, t'étais pas très loin, t'avais mis Sainz. Alex, t'as mis Verstappen et moi Norris, donc pour l'instant personne n'a eu bon sur la P2. P3, Alex, t'avais vu juste Sainz, et en DNF, et ben personne n'avait bon. On n'est pas passé loin.
Yuki qui est fier comme il est là, dixième, c'est un DNF pour le reste du plateau.
Ouais. Vu les résultats, non. Je pense pas. Et bah d'ailleurs.
Permet un paiement sans contact de plus
pour Visa Cash Red Bull Racing. si on revient sur les résultats du week-end, Max Verstappen premier. Bon bah ça, maintenant vous le savez, vous commencez à avoir l'habitude. En plus, meilleur tour en course. Donc les 26 points, le 100% gagnant. Sergio Perez deuxième, Carlos Sainz troisième, Charles Leclerc qui finit quatrième. Donc doublé Red Bull, doublé Ferrari. Ensuite, Lando Norris, quatrième. Bonne course de Lando. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les tops et les flops. Fernando Alonso, ensuite, qui est sixième. Septième, George Russell. Huitième, Oscar Piastri. Neuvième, Lewis Hamilton. Et comme tu le disais, Yuyo, dixième, Yuki Tsunoda, qui marque enfin des points chez lui. Il n'avait jamais marqué de points sur le Grand Prix du Japon. Donc, grande première pour lui. Donc, et en plus, cette année, il a l'air d'être vraiment serein. Et ça fait plaisir aussi à voir. Et puis bah, dans le reste, il y avait Hülkenberg, Stroll, Magnussen, Bottas, Ocon, Gasly, Sargent. Bon, on commence à avoir l'habitude. Et on passera, je pense, sur les déboires de Alpine sur ce Grand Prix de Suzuka, notamment avec une communication radio un peu désastreuse entre Ocon et son ingénieur qui lui demande d'accélérer. Et bon, accélérer avec l'Alpine, c'est déjà un plaisir qu'elle roule, alors accélérer, on peut pas faire mieux. Par contre, il y a eu trois abandons. On aurait pu quand même miser sur cela. Albon qui se fait envoyer dans le premier tour par Daniel Ricciardo dans le mur. Et Zhou qui a abandonné, je crois, déférence mécanique. C'était
ouais.
Ça
ouais. Ouais.
Donc voilà pour le récap du Grand Prix et les résultats du Grand Prix du Japon à Suzuka. Maintenant, on va passer un peu à vos tops et vos flops. Messieurs, si vous avez trois tops, trois flops de ce week-end au Japon, c'est votre moment. On va commencer peut-être par Yoyo.
Alors, top, ben, Red Bull, encore une fois. Week-end parfait, il n'y a rien à dire. P1, P2 en qualif, P1, P2 en course, meilleur tour en course. Arrive au centre le plus rapide aussi, avec Verstappen en 2 secondes 08. Donc, incroyable. Et pas de problème, défense mécanique réparée suite au précédent Grand Prix. La voiture est parfaite, on ne les a pas vus en course, donc quand on ne voit pas le leader, généralement, c'est que c'est mauvais signe. Enfin, là, on n'a pas vu les deux premiers, donc c'est un bon signe pour eux, mais pas un bon signe pour nous, pour le spectacle.
Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps à l'antenne. Je n'ai pas vu les métriques, mais ouais, il semblerait que ça soit moins de 5 minutes sur tout le Grand Prix d'antenne pour les Red Bull. Ouais. Sachant que
au départ, ils sont sur le podium.
Et l'arrêt en 2 secondes. On a vu l'arrêt en 2 secondes. Ouais. C'était pas mal. Ok. Donc, premier top.
Ouais. Deuxième top, Ferrari. Alors, Ferrari, dans la course. Pour les qualifs, c'était n'importe quoi. Mais clairement, pour la course, ils sont rattrapés. Pour une stratégie, après, on peut dire que c'est une bonne stratégie de McLaren aussi. Mais en tout cas, bonne stratégie de Ferrari. Et ensuite, mon troisième top. Après, c'est Figue Miraisin. Mais j'ai envie de dire quand même un petit outil. Ça fait plaisir de le voir prendre un point au Japon avec la voiture qu'il a. Donc, petit bonus pour lui. Je me moquais de lui, mais ça fait plaisir de ce côté-là.
Ok. Et en flop ?
Flop McLaren, enfin McLaren, Mercedes.
Ah.
Bah McLaren, clairement, ils sont faits sur la stratégie. Se faire undercut aussi facilement Surtout par Leclerc qui va passer de McLaren, c'est pas normal. Encore, tu te fais avoir par une voiture, ok, mais pas par deux, c'est pas possible. Flop, qui je veux dire encore un flop après, on revient sur les mêmes. Hein. La fin de peloton, clairement, les As et les Alpines, ces voitures qui vont à 2 à l'heure, ces voitures de karting, il n'y a pas le droit à ça en Formule 1. Quoi. Il faut quand même s'investir un minimum. Les voitures, elles sont trop lourdes. Les moteurs, c'est les moteurs de, je sais pas, on peut dire F2, F3, F4, je sais pas. Et les pilotes, on les sent pas motivés, pas investis. C'est catastrophique dans tous les cas. À tous les niveaux, il n'y a pas un pour attraper l'autre en fait. Quand tu as un pilote qui est motivé mais tu as une mauvaise voiture, tu sens quand même que la voiture peut aller, tu peux faire un top 10, mais là, les pilotes, il n'y a pas de communication comme tu rappelais tout à l'heure. Les Alpines qui se touchent entre elles aussi, c'est pas normal. Voilà, c'est catastrophique. Pour moi, c'est ça.
Ouais, c'est vrai que ça pique un peu.
Ouais.
Ouais.
Un autre flop ?
Mmh,
oui, non, déjà bien celui-là.
Exactement. Et après, peut-être un Grand Prix du Japon, peut-être une mauvaise saison, il faisait trop beau pour un Grand Prix du Japon.
Oh. vous voulez des dommages à chaque fois.
Vous voulez de la pluie.
Non, vous voulez de la catastrophe.
En fait, ce qui est bien, Grand Prix du Japon, c'est que t'as des fois, même s'il pleut pas, t'as quand même la météo qui dit oui, il va pleuvoir à tel moment. Et t'as tout le monde qui est en mode panique. Alors que là, il faisait super beau.
Ouais.
Et après, c'est cool pour le spectacle, la tendance aussi, le nombre de personnes qu'il y avait. On a dit que c'est un record. Là, je pense qu'on enchaîne quand même record sur record. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais ça va être un top aussi. La FIA Australie, il y a 2 semaines, qui est un record. Là, Japon, qui est un record. La F1, ça coûte cher. Et pourtant, on est de plus en plus cher. On est quand même sur des courses où il y a de plus en plus de monde. Des enfants qui ont leur petite pancarte pour dire à leur prof qu'ils étaient au Grand Prix d'aller à l'école.
C'est incroyable. Ça, c'est fort au Japon, en plus. OK. Bah merci Yoyo pour ces top et ces flops. Alex, toi, yes. Top et flop, tu mettrais quoi?
Je vais commencer par les flops. Je vais parler d'une personne que dont on apprécie énormément ici, c'est Stroll. finir P12 là où le père Alonso il finit P6 et l'entendre à la radio dire que la voiture est très lente alors que son collègue arrive à pourtant faire P6, donc c'est que là vraiment il y a une différence de maîtrise, hein, et de compétences. Je suis d'accord que c'est pas un grand prix facile, hein, Suzuka, on a vu Leclerc en difficulté pour en Q en dernière phase de qualification qui carrément fait un tour et s'est dit ouais, je pourrais pas faire mieux quoi, allez ciao, je rentre, je retente même pas, c'est mort, je pourrais pas aller plus loin, ce qui est quand même assez rare de Leclerc, je tiens à le dire pour le connaître, pas personnellement, mais du coup, être derrière les queues. Donc, mais de là, d'avoir un écart complètement différent entre les Aston Martin, qui sont pourtant au même niveau qu'une Mercedes ou qu'une McLaren, c'est assez dommage, surtout pour Stroll. Moi, j'aurais mis aussi Piastri pour une raison. J'ai envie de dire, il a fait une super course. D'ailleurs, je trouve que c'était top. Hein, il a bien géré comme il faut. Hein, on voit maintenant l'expérience qu'il a. Mais partir à la faute, loquer les pneus au dernier tour, ce qui lui a coûté du coup sa place par rapport à Russell, c'est là où on s'est dit que vraiment ça se joue sur le dernier tour. Et je pense que c'est aussi un manque encore une fois de maturité pour l'instant pour son âge, ses débuts de F1, de c'est le dernier tour, t'as quand même Russell qui est derrière, qui aussi fait des bêtises, hein, on est apte du dernier tour comme en Malaisie où Russell se prend le bord de la route, du circuit. Je me dis que là, pareil, ça lui a coûté sa septième place. Sa septième place, ouais. Donc, un peu dommage. Et enfin, j'aurais mis Steak en flop, mais en progression, dans le sens où il y a une voiture qui arrive à la fin. Et on a eu un arrêt inférieur à 7 secondes, ce qui est une première chez Steak. Faut quand même féliciter ça, en sachant qu'ils ont dit que tout ça sera réglé après la Chine, donc hâte de voir ça.
Ouais, sober steak, kick.
Sober steak, ouais, sober steak, stabilo, fluo vert, voilà, tout ça. En top, j'aurais quand même mis Yuki au premier, voilà, c'est chez lui, P10, il arrache des points, c'est pas facile. Je trouve que pareil, quand on regarde le niveau versus un Ricardo, ça pourrait être un sujet d'ici là, le prochain, en mode... on a un pilote plus expérimenté qu'un Ricardo versus un Yuki Tsunoda, et en fait aujourd'hui on a l'impression que c'est l'inverse, c'est Tsunoda qui a plus d'expérience que Ricardo, qui est vraiment en difficulté, où c'est, voilà, son nom est partout, avec Liam Lawson, je m'amusais, ça me faisait rire, pendant le Grand Prix, en top tweet, c'était plus Lawson comparé à Ricardo en top tweet, alors qu'il était même pas, il roulait pas ce week-end. Donc,
après t'as eu un plan, où t'as les deux là, où t'as... ils ont mis Lawson juste derrière Ricardo en train de le regarder.
Ouais, c'est intéressant. Donc c'est intéressant. Je trouve que Yuki, voilà, il s'en sort plutôt bien, mine de rien. Pas facile non plus comme circuit, et finir P10 avec une semi Red Bull, mais pas exceptionnelle non plus. Je trouve que c'est honorable comme prestation. En deuxième, je vais mettre Perez pour la qualif. C'est rare quand on a un Perez qui est à moins de un dixième derrière Verstappen en qualif, 0,050 hein, globalement. C'était super, je trouve qu'il a fait une super perf. Perez, il imposait, il montrait vraiment. Voilà, en fait, là, c'est un circuit qu'il met plutôt bien. Après, le rythme de course, on a déjà fait un épisode là-dessus, c'est différent. Verstappen est vraiment au-dessus. Mais Perez, là, je trouve qu'en qualif, il a délivré comme il fallait. Bien évidemment, là, en Q3, hein, il a attendu la dernière minute. Et en 3, je mettrai la sécurité. Toujours. Le Grand Prix de Japon, c'est un peu dans le cœur de tout le monde. Ça fait 10 ans que Jules Bianchi est décédé. C'était la 10e année. On sait, et on l'avait répété l'année dernière, il y avait eu quand même encore quelques bêtises l'année dernière. Un tracteur qui était encore sur le bac à sable alors que les voitures étaient sous safety car. Là, ils ont décidé, ils ont pris directement la règle du drapeau rouge dès qu'il y a un petit accident. Un petit accident, là, c'était quand même Albon et Ricardo, mais c'était vraiment direct drapeau rouge. On prend cette mesure-là pour éviter. Et je trouve que c'est pour une fois, c'est une bonne réaction de la part de la FIA. On critique beaucoup les drapeaux rouges, mais au Japon, je trouve que là, ils ont fait un super, super job sur un week-end qui était quand même mouvementé. On a eu de la pluie et du beau temps. Donc, bien wesh, l'équipe des Marshall japonais. On ne t'entend plus, Nico.
Toujours souligner le travail des Marshall en F1.
Oui, ils sont nombreux.
Donc, en F1,
voilà, top.
En F1 et aussi sur tous les sports mécaniques, moto, auto, rallye. Si vous voyez des gens sur le bord de la route qui sont en fluo ou autre, souvent c'est quand même des bénévoles qui font ça par passion. Et...
Tu le dis, monsieur, mais le rallye, c'est pas les bénévoles. C'est les spectateurs qui viennent au secours.
C'est vrai aussi.
Les pilotes, c'est ça qui est bien dans ce sport.
Ouais, mais après, t'as des bénévoles aussi, Marshall, des fois sur le côté.
Des bénévoles, tout à fait.
Mais oui, c'est vrai que le rallye, c'est assez particulier. Vous connaissez mon amour pour le rallye, j'adore. Mais c'est incroyable, franchement.
C'est trop fort. Dès qu'il y a une voiture qui se plante, ils se précipitent tous en mode tous. Et le mec, il part en trombe alors qu'il y a encore les gars sur la route. Ça, c'est génial.
C'est incroyable, j'adore.
Et toi alors, c'est top et top.
Alors, je pense qu'on a tous les trois le même avec Yuki Tsunoda. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Enfin, je commence à apprécier de plus en plus le pilote. Quand on voit ce qu'il a fait dans le premier tour, notamment le côté agressif, mais bon côté agressif. C'est-à-dire qu'avant, il avait le mauvais côté où il allait foncer un peu dans la voiture. Là, il a quand même zigzagué entre plusieurs voitures au démarrage. Il a bien pris le premier S et tout ça. Au contraire, du coup, de son coéquipier Ricardo qui a détruit la course de Williams où Albon allait passer à l'extérieur et allait doubler. Si, franchement, il a détruit notre course. On peut le dire. Oui,
est-ce que c'est détruire quand à chaque Grand Prix, il y a au moins un Albon côté Williams ?
Mais non. Je tiens à dire que Sergeant, il s'est mis tout seul dans le bac à sable. Il a réussi déjà à éviter le mur. Alors ça, c'est prouesse.
Il aurait pu finir devant les Alpines s'il n'avait pas fait sa faute.
Mais je voulais en venir là. C'est-à-dire qu'il était en train de les rattraper. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est mis dans le bac à sable. Il a fait un changement de pneus. Donc du coup, il a changé ses pneus. Il a refait un tour de chauffe pour chauffer ses pneus, etc. Et après, il a réussi à rattraper. Il mettait 2 secondes aux Alpines par tour. Après.
Trop fort.
Dans le rythme. Là, s'il restait 5 tours à la fin de la course, il doublait Gasly et Ocon. Pour vous dire, tu vois. Mm. Pour vous dire le tracteur que c'est une Alpine.
Ouais, en même temps, avec une Formule 3 aussi, ils ne sont pas aidés, quoi.
Ah, mais c'est, c'est, c'est catastrophique. Donc ouais, Yuki en top, vraiment Yuki top. Après, je sais pas quoi mettre entre Red Bull ou Verstappen, mais je pense que je vais mettre Verstappen parce que en vrai, dans les coms radio, je sens qu'il y a plus trop de cohésion dans Red Bull, mais que Red Bull existe grâce à Verstappen aussi. Parce qu'en gros, mais il est incroyable. Là, moi, je regardais au Japon, là, j'ai regardé juste les datas. Donc, je me focalisais un peu sur les données, ce qu'on appelle la télémétrie. Et pour nos chers auditeurs, la télémétrie, vous avez chaque relevé à chaque secteur. Et dans un secteur, donc le secteur 1, secteur 2, secteur 3, il y a ce qu'on appelle des mini-secteurs et qui permettent de voir la performance des pilotes dans les mini-secteurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir le rythme de course. Bah, ça, on vous le précisait dans la vidéo qui est dédiée à ça. Et il était incroyable parce que il avait un rythme de fou furieux. Et quand il relâchait un tout petit peu, et que Pérez commençait à avoir lui son rythme, parce qu'à mon avis, il sentait qu'il y avait moyen, et ben, tout de suite, il l'achevait. Et il faisait trois tours qualif, comme ça. Et en gros, il regagnait des fois son avance comme ça. Mais c'est dans la gestion des pneus et tout, il est incroyable. Franchement, je commence de plus en plus à apprécier le côté vraiment expert de Verstappen. Mais ça s'apprécie avant tout. Et je vous recommande ses streams sur Sim Racing.
Et sur FIFA aussi. C'est
et sur FIFA, il est tout aussi incroyable.
sur iRacing.
et sinon, en autre top... En autre top, je sais pas qui je mettrais, mais franchement, moi, j'aurais mis le père Fernando. Genre Alonso, mais il est d'une constance. T'as l'impression que là, il est en train de faire... il fait ses bails, cette année. Il est en train de se dire, oh, bah, vas-y, je vais me faire des petites pointes, et puis je vais aller essayer de les chercher. Mais tu sens qu'il domine sa stratégie, et qu'il emmène un peu toute son équipe à lui. Pas toute la team, malheureusement. Pas tout Aston Martin, mais son équipe à lui. Et que c'est lui qui leur ramène déjà tous les points, donc il fait vraiment tout. Après, en flop, flop Ricardo, en vrai, c'est triste, hein, je trouve. Il essaie de se battre, tu vois qu'il est là en essai libre, qu'il est là en qualif, enfin qu'il essaie d'être là en qualif, mais en vrai, tu sens qu'il est à la limite, et en plus qu'il fait des erreurs qu'il faisait pas avant. Après, je n'osais pas le mettre, mais je vais le mettre quand même, les Alpines. Bon, ça, il n'y a pas besoin de détailler. Hein. Là, je pense qu'on est tous d'accord et vous en avez déjà parlé. Mais c'est vraiment désastre land. Et je pense que ce qui m'a terminé, c'est vraiment la communication de l'ingénieur. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, à un Ocon qui est dans le fin fond et qui essaie déjà de se battre avec sa voiture, tu ne peux pas lui dire « vas-y, push », quoi. Surtout que quand tu regardes les on-board des caméras, enfin les caméras qui sont sur les voitures qui suivent une Alpine, on voit l'Alpine qui a du mal à tourner et où ils sont en train de mettre des coups de volant pour essayer de la faire un peu drifter, quoi.
On va pas être au briefing après Grand Prix quand même.
Ah ouais. Oui, parce que tiens, tu peux expliquer ce que c'est le débriefing après Grand Prix.
Après le Grand Prix, justement, les pilotes se réunissent avec les ingénieurs, le directeur d'équipe et autres dans une salle où, pour débriefer un peu des sensations de la voiture, du Grand Prix, ce genre d'éléments. On a vu, je crois, il y avait une vidéo de Leclerc qui a été publiée sur son compte Instagram où, justement, c'était un aperçu d'un briefing où, justement, il explique un peu ses sensations avec la voiture sur ce Grand Prix-là, ce sur quoi il aurait pu s'améliorer et ce sur quoi il y a du travail, que ce soit pas forcément pour lui, mais pour les ingénieurs et aussi pour ceux qui sont à l'usine derrière, ce qui est assez intéressant. Et donc, du coup, c'est aussi là où tu peux dire tes coups de gueule, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, je pense que ça a dû un peu chauffer entre son ingé, bon, même si encore une fois, il y a une relation assez particulière entre l'ingé et le pilote. Hein. Mais à mon avis, ça a quand même dû chauffer dans le sens où je pense qu'un pilote, on l'avait déjà dit, il sait des fois faire des choix, il connaît la voiture mieux que personne, il sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, à l'époque, un Raikkonen, il avait fait quelques tours de piste et il avait détecté quelque chose qui n'allait pas dans la monoplace. Ils avaient fait une analyse, ils avaient rien retrouvé, ils ont envoyé la voiture à l'usine et effectivement, il y avait un défaut qui était sous le fond plat, un truc fissuré, etc. Il n'y avait qu'un Raikkonen qui pouvait le sentir. C'est une âme de pilote. Je pense que, genre, par exemple, un Ocon ou un Gasly, tu sais que tu fais tes tours, tu sais que tu es dans ton rythme, que tu donnes le meilleur de ce que tu as à donner, quoi. Et qu'en fait, quand on t'entend ça, sachant que tu es conscient que tu es au maximum, avec une voiture telle quelle, ça fait mal, surtout sur un pilote qui a quand même gagné un Grand Prix, qui a été habitué à une voiture un peu plus compétitive, ça fait mal. Effectivement, en F1, il y a eu des fois des pilotes qui avaient une voiture pas exceptionnelle, mais les pilotes n'étaient pas non plus exceptionnels, et qui maintenant, aujourd'hui, le sont dans d'autres disciplines. Je pense par exemple à Marcus Ericsson. En F1, il était catastrophique, et aujourd'hui, en IndyCar, c'est une frappe. Mais ça ne doit pas être facile du coup de débriefer, justement, quand tu as passé un mauvais week-end, quand tu sais que dès le début, ta voiture, vous êtes en dehors, en dessous, au niveau performance. Tout le monde le sait, et que je pense, comme tu le disais, dans la télémétrie, tour par tour, quand tu fais l'analyse, on a à mon avis un rythme qui est assez cohérent avec ce qu'il fait, et comparé à d'autres monoplaces, bah, de voir qu'ils sont en retrait, malgré le fait que quand tu dis bah, push-push pour essayer de voir un petit peu justement si tu remues un peu la voiture, est-ce que tu arrives à gagner 2-3 dixièmes par tour, là c'est flat. Ça ne doit pas être évident à encaisser, et après il y a une énorme pression qui se fait à l'usine, quoi. Donc, hâte de voir d'ailleurs les changements qu'ils vont apporter pour essayer de contrer ça, en sachant que théoriquement, ils sont censés avoir des changements après la Chine pour pas mal d'équipes, il me semble. Et après, c'est Spa, ou Imola, pour certains, pardon. Mais je sais pas si ça va faire la diff, quoi. En fait, comme tu le disais, de là à ce que Williams arrive à récupérer. Et encore, je peux aller plus loin pour terminer ça. J'ai envie de dire. À l'époque, on rigolait sur Williams quand il y avait Russell et qu'il y avait notre cher ami, le Canadien...
Latifi.
Latifi. Un Albon. Effectivement, il savait qu'il avait une voiture pas exceptionnelle, mais il se bataillait. Et j'avais envie de dire, le moindre progrès qu'il y avait sur la voiture, c'était exceptionnel, quoi. C'était vraiment une avancée pour toute l'équipe. Là, j'ai envie de dire, c'est un mood de... Ils savent depuis le début, surtout les pilotes, que la voiture c'est pourri, rien qu'au lancement de la voiture, où ils tiraient la tête. Là, en course et en qualif, et même au pré-essai de pré-saison, c'était une catastrophe. T'as toutes les stats qui te le montraient, ensuite tu vois ça partout sur Twitter, sur la radio, etc., où tu vois qu'ils ont même perdu. À la radio, ils disent que c'est encore pire que l'année dernière, même le pilote le ressent. En fait, c'est là où tu te dis que c'est un peu compliqué, et que là, le travail, il est énorme, ou tu prends un parti pris, c'est d'attendre l'année prochaine. Et j'ai envie de dire que Williams avait même plus de panache, dans le sens où ça se bataillait. Par exemple, voilà, on se souvient tous de Spa, où le Russell a fait P3, il me semble, sous la pluie. P2, sorti de nulle part. Je vois mal une Alpine, même si...
J'étais là.
Les talons de Conn. Ouais, j'étais là. Il n'y avait pas eu Grand Prix.
M'en fous. Williams devant, moi j'en fous.
Ah oui, on voit Mala Ocon, qui pourtant est à l'aise sous la pluie, on rappelle en Turquie, exceptionnel, un train de pneus, le mec a fait tout en prix. Je me vois mal un Ocon aller chercher une super position avec la voiture actuelle, qui effectivement, quand tu regardes, est un désastre d'aérodynamique.
Bah tiens, prenons le pas. Ah pardon, vas-y.
Ouais, bah tu vois, ça peut être un sujet, mais déjà, rien que le fait que tu aies une partie de ta structure à Virgil Châtillon, et où tu as Enstone, c'est impossible de travailler sur une voiture. Il faut que tu importes des pièces d'un pays à un autre, que tu n'as pas testé l'implication des pièces dans la partie moteur. Quand tu regardes, toutes les grandes écuries ont tout basé au même endroit et développent tout au même endroit.
Moi, j'aurais fait un appel. Hein. C'est eux. Il ne faut pas l'oublier, les gars, parce qu'il y a une surprise hein, pour 2026. Il y a eu une marque qui revient. C'est Lotus. Hello! Allô, Lotus Renault, enfin Lotus Alpine cette fois-ci, ça oui. C'est bizarre, mais bon. Mais Lotus, ils ont quand même leur expérience. Et oh, ce serait pas mal de.
Ah oui, chercher, pour ceux qui découvrent la F1 que récemment, oui, Lotus a une grande histoire de la F1. Et a eu de nombreuses victoires, donc ça serait beau quand même, un retour comme ça. Mais après, ça voudrait dire que côté Alpine, t'abandonnes le côté un peu motoriste.
Bah, le savoir-faire n'est pas là, en fait. Et le savoir-faire, il est bancal depuis la reprise de Renault, quoi, depuis Ed Bull. Il y a eu des victoires, effectivement, ils étaient compétitifs. Et là, en un an, en fait, normalement, là où une écurie est censée un peu garder la monoplace ou faire des améliorations dessus, tu vois, un Red Bull, ils peuvent se permettre de garder une base. Ils ont quand même choisi de encore repartir un petit peu d'une feuille blanche avec Newell. Ouais. Mais Alpine, tu vois, tu t'es dit, ça a bien marché l'année dernière. Bon, bah, on va conserver un peu les bases là-dessus. On va retravailler un peu l'aéro. Là, tu te dis que c'est encore pire et vraiment accentuer le fait que ce soit encore pire. Là où tout le monde a progressé, même les écuries de fond un peu progressé, là, l'écart, il est mais redoutable, quoi.
C'est clair, t'as 12 kilos de plus, 20 kilomètres en moins.
L'aéro, c'est pas pareil. Ouais, regarde le nez, le museau de l'Alpine, il est tellement large. J'en parlais la dernière fois. Il est tellement large. Les autres, ils ont choisi le fait d'être fin. C'était fin l'année dernière. Ça a été un autre choix aéro, à mon avis, accompagné à la soufflerie ou autre. Mais là, les gars, il faut mettre du budget. Il faut cramer le budget qui reste dans la soufflerie. Hein.
Oh. Le budget est parti dans la communication marketing déjà.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein,
Il est parti d'abord sur le rose et après sur le bleu. C'est le carbone, excuse-moi.
Mais d'ailleurs, tiens, on va faire le pari tout de suite. Est-ce que Alpine terminera la saison avec un point au minimum?
Ouais, j'ai vraiment entendu.
Un point? Ok.
Oui.
On note.
Tu veux me noter, pour moi, tu veux me noter des Monaco, tu vois, c'est Grand Prix.
Ah oui, effectivement, c'est. Bah, c'est Grand si elle ne tombe pas, la voiture.
Exactement, si elle tombe pas. Mais Monaco, t'as de la pluie. T'as une chance sur deux ou trois d'être dans les points.
Ouais, mais justement, elle tombe pas.
La pluie, hein, l'Alpine, hein.
Ouais, c'est pas grave. Ça drift quand il pleut, c'est ouais. Tout seul.
Ah, voilà, vous misez sur tellement de conditions là.
Ça se trouve, ils ont parié sur la pluie et elle doit être exceptionnelle sous la pluie.
Exactement.
Donc ils prient tous les jours, ils se sont dit, mince, Suzuka là, dès avril, non les gars, c'est pas bon. Là.
C'est pas possible.
On n'a pas parié sur ça.
Ok, bah, on tient les paris et on verra ce qui se passe. Bah, très bien, merci messieurs. Et du coup, sur le classement de la saison, du coup, pour fermer la parenthèse du week-end, qu'est-ce qui se passe au niveau du classement? Max Verstappen, 77 points, premier. Sergio Pérez, 64 points, deuxième. Charles Leclerc, troisième, 59 points. Carlos Sainz, 4e avec 55 points, pardon. Lando Norris, 5e avec 37 points. Et Oscar Piastri, qui est 6e avec 32 points. Notre cher Russell, Alonso, Hamilton suivent ensuite. Stroll, Yuki Tsunoda. Le Birman qui est du coup toujours au classement, normal, il a marqué 6 points quand même, il ne faut pas l'oublier. Et pour terminer dans les gens qui sont dans les points, les deux As avec Nico Hülkenberg et Magnussen. Au niveau des écuries, l'écurie Red Bull 141 points, 21 points d'avance sur Ferrari, ce qui est quand même pas mal, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, l'écart entre le premier et le deuxième était gigantesque. McLaren qui suit, belle continuité de la saison dernière, McLaren, donc c'est vraiment pas mal. Mercedes ensuite, Aston Martin, Red Bull Honda, enfin c'est Red Bull Racing Honda Visa Cash, on commence à connaître le nom ici. As qui ferme la marche avec les écuries avec des points, et après bah, les trois écuries sans points, Williams, Kick, Sauber et Alpine. Voilà pour les classements. On parlait tout à l'heure du classement des pilotes avec Leclerc Sainz. Eh bien, ça va être le moment de passer à notre sujet focus du jour. Sujet focus sur Sainz est-il meilleur que Leclerc? C'est le débat qu'on a voulu lancer ce soir.
Contre ma volonté, l'audience, contre ma volonté.
Oui, c'est vrai que c'est entièrement contre la volonté de notre supporter de Ferrari. Mais autant te le dire tout de suite pour ce sujet focus, tu vas devoir choisir. Merci. On sait déjà, à mon avis, qui tu vas choisir, mais tu vas devoir choisir. Et c'est ça qui va être délicat pour toi. Présentation déjà des deux pilotes. Je vais vous présenter Charles Leclerc. Charles Leclerc, il est né le 16 octobre 1997. À Monte Carlo, Monaco, monégasque du coup, sous pavillon monégasque, aussi en F1, 32 podiums, bon, du coup on va parler quand même des deux pilotes Ferrari pour ceux qui sont pas au courant, 32 podiums, 1133 points au total, 129 grands prix, zéro titre de champion du monde, il faut quand même le préciser. Il a terminé 5 fois premier et il a déjà fait des pôles. En face, challenger, Carlos Sainz. Carlos Sainz, il est né le 1er septembre 1994 à Madrid, en Espagne. Il est donc espagnol, 21 podiums, 1037,5 points, oui, parce qu'il y a eu Spa. Le seul Grand Prix où il y a des demi-points de partagé. Il a fait 188 Grands Prix, zéro titre de champion du monde, 3 fois premier et meilleure place, la pole. Carlos Sainz, Charles Leclerc, on a quasiment le même nombre de points, quasiment à deux saisons près, deux, trois saisons près, le même nombre de Grands Prix. On a quand même 5 victoires pour Charles Leclerc, 3 pour Sainz. Messieurs, qui est votre top pilote entre ces deux cadors de Ferrari? Est-ce qu'on laisse d'abord Yo-Yo et puis après Alex, tu devras faire un choix. Si vous voulez.
Alors vas-y. Moi, tu m'as posé la question 5 en arrière, je t'aurais dit, il y a une différence Leclerc largement. Bah Leclerc, c'était le successeur digne de Vettel, quoi. Tout le monde voyait champion du monde, voire 2-3 titres. Il avait toute la carrure, il était monégasque. C'est un pilote en devenir, en F2, F3, il a un beau palmarès, rien à dire. Par contre, je pense qu'il y a une cassure, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, au moment où il a perdu son titre, où il s'est fait dépasser par Verstappen. Là, je pense que Sainz, je sais pas si c'est le fait qu'il a la pression, il se dit bon, ben, l'année prochaine, j'ai pas de volant, faut que je fasse quelque chose, faut que je me monte. Mais tu sens que c'est lui qui lead Ferrari. D'une part, quand il pilote, tu l'entends parler aux ingénieurs, c'est lui qui fait la stratégie. Leclerc, il est plus en retrait, il va plus parler, plus râler, dire ma voiture ne fonctionne pas, etc. Alors que Sainz va chercher. Justement, l'optimisation, même si Ferrari n'écoute pas toujours alors qu'il a la bonne stratégie. Cette année, il nous a montré qu'il a pu gagner une victoire. La semaine dernière aussi, c'est lui qui gagne la victoire de Ferrari. Ça fait 2 ans, c'est lui qui gagne la seule victoire de Ferrari sur la saison. Avantage Leclerc pour les pole positions, clairement pour moi. Sur un tour, Leclerc reste meilleur. Mais sur la course, rythme de course, on est sur un Sainz qui est plus complet. Et puis, cette année, il y a quand même 4 points de retard sur Leclerc. Parce qu'il a arrêté une course à cause d'un appendicite. Hein. Donc, si on prend les 6 points de Burman, ou s'il aurait fait la course, il serait, je pense, devant Charles Leclerc.
Aïe, 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 aïe. Donc, pour toi, qui est. Est-ce que, si on reprend la question, est-ce que Sainz est meilleur que Leclerc?
À l'heure actuelle, oui. Comme okay. Je disais, il y a quelques années, j'aurais dit non. Clairement, il y a une différence qui était notable entre les deux, leadership, gestion de la course. Leclerc est clairement une voie royale. Et il y a eu une cassure qui s'est faite pour moi. Et à l'heure actuelle, Sainz est meilleur. Ça peut changer, Alex.
Alex, c'est ton moment. tu es dans la peau de Vasseur. Qui tu mets en numéro 1, même s'il n'aime pas faire ça? Notre cher Frédéric Vasseur, qui tu mets en numéro 1 pour toi? Est-ce que Leclerc est meilleur que Sainz? Est-ce que Sainz est meilleur que Leclerc?
Bah, je vais répondre avec une simple réponse. Je suis Vasseur. Voilà. Écoute, il y en a un qui reste dans l'équipe l'année prochaine. Hein. C'est Leclerc. Allez, fais le focus avec un. C'est Leclerc. Et je suis vraiment attristé de ce move. D'ailleurs, de faire rentrer Lewis. Tu me reposes l'année prochaine la question, ce sera encore plus Leclerc que Lewis. Mais effectivement, comme le disait si bien Yo-Yo, étant grand fan des Charles Leclerc, ce qui est dommage avec lui, moi j'aime bien comparer personnellement Leclerc à Bottas avec sa malchance. Leclerc, il n'a pas de chance sur beaucoup de choses, les stratégies à chaque fois, les arrêts au stand ou ce genre de choses, ça tombe toujours sur lui. Sainz a toujours un peu plus de chance. Je ne dis pas que Sainz n'est pas talentueux, bien au contraire. J'ai envie de dire, effectivement, jusqu'à présent, Leclerc dominait. Et effectivement, il a dominé. Le choix a été fait sur lui il y a des années quand il y avait encore Vettel chez Ferrari. Où voilà, Vettel se disait, bah, tout est fait pour Leclerc, effectivement. Et donc, il est parti chez Aston. Mais on le dit, hein, les seniors, depuis le début d'année, depuis que maintenant la Sainz est au courant qu'il se barre, on a un autre Sainz. Après Supermax, on a un Super Sainz. On ne l'a jamais vu comme ça. Il est à l'aise en qualif, il vient challenger du Leclerc, il est présent. J'ai envie de dire, c'est un Pérez bis, sauf qu'à l'inverse de Pérez, il donne vraiment ce qu'il a envie en course. Il montre vraiment de quoi, voilà, de quoi, de tout ce qu'il peut donner, toute sa force, son expérience et tout ce qu'il a appris de son père et de lui. Aujourd'hui, ça va être dur, Charles. Sorry. Mais effectivement, je dirais que Sainz là est au-dessus. Ça se voit en course, ça se voit, le rythme, c'est différent. Même si Charles a fait une super course à Suzuka, parce que finir P4, c'était pas facile avec à partir de P7. Là, Sainz est au-dessus. Il arrive à mieux gérer ses pneus. C'est naturel. C'est naturel là, ce qui se passe. Je me dis que là, il fait tout. Sainz pour montrer, pour aller rentrer dans une autre écurie. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas fait ça avant. Je repense un petit peu, voilà, il y a 2 ans, Yo-Yo, tu disais, il y a 2 ans, il challengeait un peu plus Verstappen. Et Sainz aussi, quand il avait été prolongé justement pour les 2 années suivantes, une fois qu'il savait qu'il était prolongé, il a fait 3 erreurs au cours des trois Grands Prix suivants. À Imola, il est parti dans le bac à sable alors qu'il aurait pu aller voir la pole. Bref, il a fait ce genre de choses. Et donc, du coup, je me suis dit, bah là, il était trop en confiance et ça lui a pas réussi. Et là, il a tout à perdre, le mec. Enfin, il a rien à perdre, pardon, puisque de toute façon, il n'a rien pour l'année prochaine pour l'instant. Et le mec donne le meilleur de lui-même, de ce qu'il n'a jamais été. Donc aujourd'hui, je te dirais que Sainz a bizarrement plus de maturité qu'un Leclerc. Effectivement, tu le disais que ça ne joue pas grand-chose, mais quand tu regardes le nombre de Grands Prix, il est quand même plus vieux, le père Sainz, et il a plus de Grands Prix à son actif qu'un Leclerc. Mais en termes de points, effectivement, allez, a commencé différemment dans une autre époque aussi, le père Sainz, enfin le fils, mais
Oui, parce que
il est
le
plus
père
talentueux. Parce que le père est un grand prodige du rallye.
est... Ah oui, un grand pro du rallye.
Ouais, qui a déjà
Paris-Dakar,
fait du bob
etc.
cette année. Mais Sainz, là, a plus de maturité, a plus de confiance en la voiture. On le sent mieux gérer ses pneus, aller plus loin. Quand il a envie de claquer ses tours, il claque ses tours. Enfin, on l'a vu en Australie. Bam! Le mec en dur, allez, que ça tape, et que ça tape, et que ça tape, tour par tour, meilleur tour. C'était un super Sainz. Donc, j'ai envie de dire oui, jusqu'à preuve du contraire. Ou, encore une fois, quand il aura son contrat, hâte de voir s'il y a un changement de comportement, un changement de pilotage, dans le sens où, bon, bah, je suis, de toute façon, quoi qu'il arrive à la fin de l'année, je suis plus chez Ferrari, donc je m'en fiche de foutre en l'air, donc je peux repousser des limites. Ou, alors maintenant j'ai une nouvelle écurie, je veux quand même donner le meilleur de moi-même pour montrer ce que je veux pour la prochaine écurie. Et donc, la même situation qu'il y a 2 ans, bah, je veux montrer ce que je veux pour Ferrari et finalement faire des erreurs un peu bêtement. Hâte d'avoir cette réponse. Je l'espère, avance pas avant
Ah
justement la trêve estivale où on a un peu tous les gossips.
ouais.
Du coup, question. Vous voyez où Sainz? Quelle écurie pour Sainz l'année prochaine? Prenez les
Alors
paris.
moi, j'avais posé la question justement avant que tu la poses, mais est-ce que vous voyez pas Sainz chez Red Bull? Je m'explique. Le père est en Dakar, chez Audi, avec un
Je dis.
sponsor Red Bull. Le fils donne tout, avec la voiture qu'il a. Bon, certes, les deux Red Bull sont pour l'instant dominatrices, mais un Pérez qui lâche durant la saison, on peut très bien retrouver le fils aussi chez Red Bull en F1.
Tout en sachant que Sainz, pardon. Sainz a commencé sa carrière Formule 1 sur une Scuderia Toro Rosso,
Exactement, donc dans les girons Red Bull, donc
qui
tout à fait.
est du coup l'ancienne Racing Bull de Visa Cash. Et ben c'était ça, c'était le nom, c'était Toro Rosso. Du coup, c'est vrai que ça peut revenir aux origines, sachant qu'il avait déjà aussi couru avec Max Verstappen. Si Verstappen reste côté Red Bull.
Bah, Je sais pas, parce qu'effectivement, il y a plein de spéculations de ça y est, maintenant, on a le plein pouvoir sur Red Bull, la famille Verstappen cherche à bouger. Il y a, à mon avis, des discussions en rate à gauche. On est bientôt sur une nouvelle saison avec une nouvelle monoplace. Et donc, du coup, on peut recentrer, revoir un peu le besoin du pilote, donner le meilleur de soi-même, etc. Imagine demain, voilà, Verstappen part chez Mercedes, à la place de voilà, Hamilton qui part chez Ferrari. Il y a une place qui se libère chez Red Bull. Un Sainz, il ne va pas retourner chez Williams, même si Albon, voilà, c'est quelque chose qu'on peut proposer. Je vois bien voilà, top team, un Sainz s'il doit bouger, c'est sûr que c'est top team, parce que voilà, il a montré ce qu'il pouvait, ce qu'il valait, et il n'a pas envie de redescendre, pas comme un Bottas qui voilà, est plus calme, plus centré sur d'autres business, etc., ou un Ricardo. Tu ne peux pas virer du Stroll sur Aston Martin, c'est dommage. Donc c'est McLaren, mais j'y crois pas. Même s'il était déjà collègue avec Norris, ils peuvent pas virer Piastri.
Non, puis ce serait le pire move.
Ce serait le pire move. Donc je vois que Mercedes ou Red Bull. Et Mercedes.
Moi je vois bien Sauber par contre. C'est bête, mais avec l'arrivée d'Audi, ouais. Le père qui est déjà chez Audi, tu veux faire un gros truc, tu prends un top pilote. Certes, il sacrifie un an. Où tu prends cher et derrière tu vas chez Audi qui va mettre les moyens, c'est plus possible aussi.
Ah ouais,
c'est... Après, il y a aussi les fameux mots de tu sais que t'es second,
c'est ça,
pilote, comme un Bottas, donc tu sais que tu seras toujours potentiellement second et donc tu vas dans une écurie où tu vas tout leur apprendre. Audi, je crois qu'ils voulaient de base imposer des pilotes allemands par défaut. Mais après, ça se renégocie, bien évidemment. Quand un champion, c'est quand même quelque chose.
Ouais, ça.
Mais pourquoi pas, effectivement. Mais je le vois mal y aller comme ça, en connaissance de cause, en sachant que c'est du début, on commence à zéro. Quoi. Trouve-moi le contraire. Yo-yo, on prend le pari.
le pari, on l'a. Enfin, on a tous regardé Brown, GP. Ils sont partis de rien. Les pilotes leur ont fait confiance. Et première saison...
Williams 2026. Williams 2026.
Aussi.
Moi j'y crois.
Ouais. Bah, c'est le pari hein, que fait Jost. Hein, donc,
Ah, James. Il va nous conduire jusqu'à.
Tout le monde promet. Tout le monde promet tout pour 2026. Hein. Alpine promet une belle voiture. Ferrari promet une belle voiture. Et au final, ouais. Une Red Bull, il y a un McLaren aussi. On va sortir qu'une Red Bull encore première avec 3 secondes d'avance.
T'as dit une belle voiture. T'as pas dit une voiture performante.
Oui, performance aussi.
Ok, c'est voilà, pas que carbone. Non, mais oui, donc je pense que, je sais pas, Sainz, en tout cas, je le vois, j'aimerais le voir en haut plus tard, mais j'ai peur qu'il soit toujours second, comme il l'a entre guillemets toujours été, même si à un moment donné, quand il était chez McLaren, il pouvait montrer ce qu'il valait.
Ouais. Bah, si on refait son parcours, 2015, arrivé chez Scuderia Toro Rosso. Ensuite, il a fait Toro Rosso de 2015, 2016, 2017. Ensuite, 2018, il chine chez Renault. Renault Sport, du coup, à l'époque. Ensuite, il a. En 2017. Ah, il a fait une demi-saison, oui. Demi-saison Scuderia Toro Rosso. Ensuite de Renault en 2018, McLaren en 2019, McLaren en 2020, arrivé à Ferrari en 2021, 2022, 2023, 2024. Donc là, c'est la première fois qu'il reste aussi longtemps dans une écurie. Hein.
Et la suite. Pas.
Et Charles Leclerc, lui, c'était Alfa Romeo en 2018, Alfa Romeo Sauber. Scuderia Ferrari.
Tu pourras encore le rajouter pendant quelques années quand même.
Ouais, mais ce qui montre que, genre, comme tu disais, il est là pour rester longtemps et que, en gros, c'est lui qui va dicter un peu le truc, quoi.
C'est un futur un peu Verstappen-Hamilton, hein. C'est la génération de Verstappen, donc c'est des gens qui sont là pour longtemps, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait une génération future qui soit encore meilleure que Verstappen et Leclerc.
Ah, Biermann,
peut-être. Est-ce que c'est un nom qui sonne bien? Je ne sais pas.
Ouais.
Je sais pas, la génération future est quand même assez bloquée actuellement. Quand tu regardes les top pilotes, Verstappen, il fallait le chercher, Russell, il fallait le chercher.
Ouais.
Y a bah, pas, en fait, puis...
Ouais. Puis comme tu disais un peu tout à l'heure, il y a des places aussi qui ne bougeront pas.
C'est ça, c'est assez bloqué. Tu sais que soit tu attends 5-10 ans dans une team mineure, soit tu n'es jamais dans la top team, donc c'est compliqué.
Rappelons que chez Aston Martin, même si Aston Martin a une bonne voiture, il y a un baquet qui ne peut pas bouger tant que Stroll n'a pas décidé d'arrêter, quoi. Parce que son père lui garantira toujours un baquet disponible.
C'est ça.
En fait, si on retrace le parcours de Leclerc a eu de la chance en soi, parce que passer de chez Alpha chez Ferrari, quand Raikkonen part à la retraite, revient chez Alpha pour faire sa dernière année, c'est quand même le move inattendu, mais exceptionnel, mais là où en fait t'as d'autres pilotes qui ont réalisé ça toute leur vie et qui ne l'auront pas.
Regarde Sainz, tu prends le parcours de Sainz, il a joué soit un binôme incroyable, soit ouais. Il fait sa demi-saison chez Red Bull, où t'as le switch, justement il prend la place de Gasly qui va chez Red Bull à ce moment-là. Donc, il n'est même pas pris en top pilote pour aller chez Red Bull, il reste pilote secondaire après.
Est-ce que ce ne serait pas le...
Après, il faut pas aussi négliger le pouvoir de l'argent et des contrats que peuvent déclencher certains pilotes.
Il a des bons sponsors hein, aussi.
Bah oui, bah c'est ça qui fait qu'il est là.
Oui, t'as des bons sponsors.
Comme on citait Pérez, hein. On l'a cité dans de nombreux épisodes, Pérez pour aller déloger. L'oncle, c'est une des meilleures fortunes au monde, donc va falloir... Il va falloir y aller, hein, les gars. Mais après, vous avez dit un truc très intéressant sur les futures générations, c'est que pour aller prendre le baquet bah, du coup, de ces pilotes-là, bah, en gros, il va falloir attendre encore 3-4 saisons pour avoir des places qui se libèrent. Et là, il faudrait être aux aguets et il y a plusieurs pilotes qui le sont déjà. Et c'est pour ça qu'on vous encourage aussi à suivre la F3, chers auditeurs. Parce que dans la F3, vous allez avoir un petit lot de jeunes pilotes qui vont arriver ensuite en F2, puis en F1. Et donc là, il va falloir les suivre.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, la génération Adjar, tout ça, pour moi, je n'y crois pas du tout. Hein. Franchement, pour chier Adjar, ils sont trop vieux pour
un pilote. C'est une histoire de malchance. Il est né à la mauvaise année. Bah, du coup, ils ont beau avoir le meilleur talent du monde. Soit il y a la thune qui doit bloquer, soit il y a le talent, mais il faut surpasser des fois certains vieux briscards qui sont là. Quoi.
C'est le problème. Verstappen, il a 24 ans à peine.
Ouais. Bah, après.
Formule 1 depuis ses 16 ans, quand même.
C'est ça. Depuis ses 16 ans, ouais. Et en plus, on en parle, mais. Oui, t'en as qui sont là depuis très longtemps. Puis des fois, on parle aussi des anciens pour les faire revenir dans certains baquets. Genre Vettel, il est quand même dans la discussion pour remplacer Hamilton chez Mercedes, quoi. C'est lunaire. Hein. Le mec, il fait du pétrole écolo et il protège les abeilles à Suzuka. Donc, vraiment, c'est très loin de tout ça, quand même. Ok, bah on va pouvoir refermer ce chapitre focus sur ces deux pilotes. Et on a bien compris, pour résumer, que c'est pas du tout les mêmes profils. C'est pas du tout les mêmes profils, qu'on a quand même un Carlos qui est bon, mais qui n'est pas non plus excellent sur toute la période de sa carrière. Mais qu'aujourd'hui, l'esprit détendu... et allégé pour aller chercher un contrat dans une autre écurie, bah en gros il arrive à se surpasser et à faire des grands prix de folie, tout ça avec une opération de l'appendicite, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, messieurs, road to China, prochain épisode de la Formule 1 en Chine, retour du Grand Prix de Chine qui sera du coup ça se déroulera le week-end du 19, 20 et 21 avril, donc à suivre. C'est encore la séquence des Grands Prix le matin, pour nous qui sommes en France. Et ça fait plaisir, parce que là c'est à 9h du matin. Sauf si on veut suivre la course sprint qui est à 5h, entre 5h et 6h du matin. En vrai je pense, parce que le sprint et surtout le Grand Prix de Chine, si vous n'avez jamais vu le Grand Prix de Chine, parce que je crois que le Grand Prix de Chine, je sais plus s'il y a, est-ce qu'il y a eu un épisode, il y a eu un épisode de, il n'y a pas eu d'épisode de Drive to Survive en Chine?
Non,
parce que c'était en 2018, c'est ça le dernier?
Ouais, c'est trop récent. Ouais,
ouais, bah là, c'était l'époque de Grosjean.
Ouais, 2019.
Oh là, la As Black and Gold.
2019, dernier Grand Prix de Chine. Donc en fait, si vous avez connu la F1 ou appris à connaître la F1 depuis Drive to Survive sur Netflix, on vous encourage à regarder des on-board, des vidéos de Grand Prix en Chine. Le circuit est exceptionnel. Comme vous voyez notamment sur la vidéo, soit en stream, soit en rediffusion, il y a surtout ce premier virage, le virage en escargot, qui est très très rare quand même en Formule 1. C'est le seul d'ailleurs, je crois. Si on... ouais,
t'avais Indianapolis aussi.
Il y avait Indiana, mais ouais. C'est... Donc il y a quatre virages qui se succèdent et qui, je pense, avec ces Formule 1 modernes, vont donner un peu mal à la tête à force de faire des tours, parce qu'il y aura 56 tours. Il y a une énorme ligne droite entre le virage 13 et 14, avec notamment une zone DRS. Donc il y aura deux zones DRS. Donc c'est le premier Grand Prix en 2004 sur le Grand Prix de Shanghai en Chine. Le tour le plus rapide 2004, donc tour par Michael Schumacher en 1:32.238. Donc on est à peu près sur les mêmes chronos par tour que Grand Prix de Suzuka. C'est pour vous donner un peu une ordre d'importance. Donc, circuit très, très stylé, avec l'énorme ligne droite. Maintenant, on va passer à ce que vous attendez tous, les pronos. Vous avez eu le temps de réfléchir pendant cette présentation. Quels sont, messieurs, vos pronos? Donc, on va passer sur la pole position, P1, P2, P3 et le DNF. Yo-Yo, quels sont tes pronos pour le Grand Prix de Chine?
Allez, je vais mettre Max parce que j'ai mis du clair, ça ne m'a pas souri. Donc
Alors, déjà, si je reviens sur la présentation du circuit, le Grand Prix de Suzuka, c'était 100% Red Bull, quasiment. Et le seul delta, c'était le vent, un peu, qui pouvait défavoriser la Red Bull. Sachant que là, d'après les derniers relevés, il y a beaucoup de vent sur la ligne droite, ce qui peut déstabiliser la Red Bull. Et l'énorme secteur 1 avec le virage en escargot, apparemment, est à l'avantage des Ferrari. Je dis ça, je laisse la magie opérer.
Oui, non, je reste quand même... Parce que justement, c'est quand on ne s'y attend pas qu'il y a un truc qui se passe, et quand on s'y attend, on fait nos pronostics, ils dominent outrageusement. Donc,
c'est vrai, c'est vrai.
Je reste sur Max de ce côté-là, sur la pole.
Ok.
Ouais, pareil.
Pareil.
Ouais.
Ok.
En fait, le circuit est quand même fait Red Bull. Hein.
Exactement, ouais.
Trop rapide et la Red Bull en virage, elle cartonne. En fait, c'est pas le temps l'escargot. L'escargot, je pense que c'est plus effectivement Ferrari. Mais après, c'est à l'enchaînement de S que moi j'adore. Et là, c'est full la haute vitesse Red Bull, ils sont au-dessus.
Ouais, le fameux enchaînement là dans le secteur que vous voyez en bleu à l'image. C'est très c'est... haute vitesse. Ouais, et là, de ce qu'on a vu à Suzuka. La Red Bull, elle envoie quand même du lourd. Hein.
Ah ouais.
Ok, bah moi je vais mettre Sainz. On parlait, pam. Juste pour pas faire comme les autres. P1, yo-yo.
Mais Max, il part un peu, il gagne. Donc là, ouais. C'est à P2 que je vais changer. Mais...
Pareil.
Ouais, bah moi je vais mettre Verstappen aussi.
Je pense que là...
P2.
P2 Leclerc.
P2 Leclerc. Leclerc aussi, Alex?
Non, je mettrais Perez quand même.
Perez.
Là, je le vois bien dans le rythme.
Moi, je mets Sainz. Je vais demi. Et P3
P3 Pérez.
P3 Pérez.
Leclerc.
Je vais mettre Leclerc. Ah. Si. Le DNF. Donc, abandon.
Gasly.
Wow,
il a la chance ce week-end, mais la foot fera jamais deux fois le même endroit. Donc,
Enfin, la Alpine en DNF. Attention.
J'adore Gasly, mais malheureusement.
Bottas.
Bottas.
Ils ont dit qu'ils fixeraient le problème après la Chine. Après.
Justement, ils prennent tellement de temps à changer un pneu que tu bats des DNF.
Ouais, bah, et franchement, c'est chaud.
Mais tu sais que ça cause du problème de... des coups.
Ouais, des boulons, ouais.
Bah, il met un Magnussen.
Ça se sent.
En fait, j'hésitais avec Hülkenberg, mais c'est vrai que. Je ferais jamais. Il n'y a plus la TV, je peux plus. Non, je mets Magnussen et en fait il va emporter quelqu'un d'autre. C'est pas Magnussen tout seul.
Mais je vois bien un accrochage pour les virages quand même.
Oui, moi aussi.
Là, ça fait longtemps que les pilotes n'ont pas couru sur en Chine. Et il est greedy hein, celui-là. C'est-à-dire que tu fais l'extérieur, tu peux facilement arriver à 3. Sauf qu'avec les monoplaces qu'on a aujourd'hui, 3.
De front,
et après, t'as le virage. En fait, t'as le virage 1 où ça va, et 1 et 2 où ça va se tirer la bourre. Et ensuite, le redressement entre le 2 et 3, c'est là où ça passe, où ça casse.
Et là, moi, je vois bien au 14, tout au bout de la ligne droite, où quand on avait regardé l'onboard lors de la dernière, du dernier live. Il peut y avoir ça aussi. Mais lors du dernier live, quand on avait regardé, c'était à l'époque le premier Grand Prix de Verstappen en Chine. Et il avait accroché une voiture là-bas. Et je pense que là tu vois au bout du virage, là, longue ligne droite, l'Alpine, elle ne tourne pas.
Bah, tes freins ont le temps de refroidir en plus. Hein. T'es au bout de la ligne droite.
Oui, au bout de la ligne droite.
C'est énorme. En sachant que même Schumacher, à la sortie du virage, avant la ligne droite, le virage 13, c'est là où il spinait. Parce qu'il y a de l'élévation et c'est en courbé. Il va falloir prendre ça avec des pincettes. Je vois bien un petit Sargent là qui fait un spin ou quelque chose comme ça.
Mais non, beaucoup trop fort Sargent.
Après, t'as le virage 9 aussi. Hein. 9-10, l'enchaînement, il est pas simple. Hein. T'as un appui quand tu tournes.
Ah oui, mais il est hyper technique, ce circuit.
Ouais.
Très technique.
Super circuit.
Bon, en tout cas, on vous encourage vraiment à vous lever, à aller chercher les croissants, vous faire plaisir et à regarder le Grand Prix de Chine. Donc, pour récapituler, Grand Prix de Chine prévu à 9h, donc le Grand Prix à 9h. Donc c'est le premier Grand Prix, enfin week-end, où on aura une course au sprint, on rappelle. Ce qui fait dire que du coup, il n'y aura pas d'essai libre 2 ni d'essai libre 3. Une seule séance d'essai libre, le vendredi à 5h du mat pour nous. La course au sprint à 9h30 le vendredi. Samedi.
À quelle heure vendredi ? Attends,
ouais. Enfin, le sprint qualif, pardon. Ouais, le sprint qualif, c'est à 9h30 le vendredi. Le sprint, c'est à 5h, de 5h à 6h, et les qualifs de 9h à 10h le samedi, et le Grand Prix à 9h le dimanche. Donc en fait, ce qui va être fait, c'est essai libre, qualification pour la course sprint, sprint, qualification pour la course. Donc voilà, c'est ça l'enchaînement du week-end du 19 au 21 avril.
C'est vrai qu'avant, la qualif. C'est le même régime que l'année dernière ?
Non, ça a changé justement.
Après, non, ouais.
Avant, c'était qualif avant, non ?
Ouais, oui, c'était qualif avant, ouais.
Voilà. Catastrophe.
Donc voilà. Donc ça, c'est le résumé. Pour,
tu te tapes une monoplace qui a vécu pendant la sprint pour après de la qualif, c'est sympa.
Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a. Il va y avoir deux types de préparation, même trois types de préparation. Il va y avoir trois types de préparation. Une préparation pour la qualif, une préparation sprint et une préparation race.
Et ton train de pneus aussi, oh là là.
Sachant que les pronos étaient uniquement pour la course principale. Nous n'avons pas fait de pronos pour la course sprint.
Ça en compte. Ouais. Ok, bah ça change pas. Hein. Les pneus, de toute façon, même à plat, Red Bull, ils sont toujours là. Hein.
Ouais,
là par contre, c'est vrai que j'aurais dû miser sur un Sargent en vrai. Le Sargent, parce que si tu crashes ta voiture
en qualif,
Ça fait plus de pneus pour Albon.
Ouais, mais ça fait que les voitures en moins. Ils n'ont pas de troisième châssis. Donc,
on n'a pas de troisième châssis, ouais.
Exactement. Donc tu peux pas. Tu repars pas avec DNF. Ah oui, ah non, c'est vrai, il part pas si
c'est pas troisième châssis. Eh oui! Et oui, c'est pas DNF. Et en plus, on sait pas avec le si le châssis de d'Albon est abîmé là.
Exactement, ouais.
Mystère.
Voilà. Pour les autres programmes sur les prochaines semaines, il y a pas de F2, il y a pas de F2 le week-end prochain. Enfin, dans deux semaines du coup. Ah oui, parce que c'est dans deux semaines la fin.
C'est dans un mois le prochain F2.
Ouais, c'est ça. C'est dans un mois. Oh là là. La F3, pareil. Retour à Imola. Pour les dames de la F1 Academy, là c'est dans moins d'un mois, c'est à Miami. MotoGP, prochain Grand Prix dimanche au Grand Prix des États-Unis, exactement. Ah, je kiffe. Le week, il y a toujours le round 2 qui est le 21 avril, donc du coup, ça sera le week-end du Grand Prix de Chine. Il y aura les 6 heures de Imola.
Ouais, le 21 avril, il ne faut pas sortir de chez soi. Hein.
Ça s'enchaîne.
T'as IMSA, t'as WEC.
C'est ça. F1. C'est ça, parce qu'en IMSA, ouais, comme on disait tout à l'heure, il y a Long Beach, 19-20 avril.
Et c'est peut-être pour Cher qui pourrait participer.
Ouais,
là, ils l'ont annoncé tout à l'heure. Hein. Si.
Le gars est ici. Non, why not, hein. Trop bien. Et du coup, Long Beach aussi, côté Indica. Voilà le programme.
Ouais, c'est ça.
Programme complet.
Long Beach.
Voilà, messieurs. Et ben, avec tout ce programme, ben, il ne reste plus qu'à vous remercier. Remercier tous les auditeurs qui nous écoutent, qui nous suivent. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour suivre toute notre actualité. Messieurs, merci beaucoup.
Et merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Seins de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, les Seins de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.